Test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre une femme qui raconte ce qui lui est arrivé un jour quand elle a pris l'ascenseur. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 8. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Alors, un jour, ou plutôt en fin d'après-midi, je rentrais chez moi avec mon compagnon, et parce qu'on avait fait des courses, en fait, en ville. Oui, je crois qu'on avait acheté des vêtements, enfin, on avait fait du shopping. Et le soir, on était invités à dîner chez des amis. Donc, on rentre à la maison avant pour poser les affaires, pour se changer et puis pour repartir. Et à l'époque, on habitait au 11e étage dans un immeuble. Donc, bien sûr, on a pris l'ascenseur. On prenait jamais les escaliers. Et donc, bon, dans l'ascenseur, on appuie sur le 11e étage. Et puis voilà, on attend que ça se passe. Ça monte, ça marche. Et à un moment, en fait, l'ascenseur s'est arrêté. Donc, on s'est dit, bon, c'est pas grave, ça va repartir. Voilà, on essaye de pas paniquer. Et en fait, l'ascenseur, non, on repartait pas. Mais chose étrange, la lumière fonctionnait encore. Il y avait une lumière de sécurité, je pense, parce que... Ouais, enfin, il faisait pas nuit, c'était déjà ça. Donc, on avait vu qu'il y avait un bouton, alarme, sonnerie, donc on appuie dessus. Bien sûr, il se passe rien, donc on insiste un petit peu. Et puis, en fait, mon ami, il est claustrophobe, quoi. Donc, moi, j'essayais de rester super calme, de faire... Non, non, mais tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, de dédramatiser au possible. Et bon, on insiste quand même sur le bouton sonnerie, il se passe toujours rien. Donc bon, mon copain commence à taper contre les portes pour avertir les voisins. Et puis bon, évidemment, il a fait tellement de bruit que des gens qui habitaient au-dessus ou en dessous, je sais pas, sont arrivés. Et on dit, bah, qu'est-ce qui se passe? On dit, bah, on est coincé dans l'ascenseur, prévenez le gardien. Et là, la réponse du voisin a été géniale. Il nous a dit, bah, on est samedi soir, il travaille pas. On a fait, mais attendez, on va pas rester dans l'ascenseur jusqu'à lundi. Ah bah, il n'y a pas de solution. Et je dis, mais si, on ne va pas rester dans l'ascenseur. Il dit, mais le gardien n'est pas là. Et on est si, c'est un dialogue de sourds, quoi. Et donc, j'ai fini par avoir besoin de dire à ce monsieur-là, il dit, mais écoutez, appelez les pompiers, tout simplement, quoi. Faites quelque chose. Parce que nous, je ne sais pas, nos portables, ça ne marchait pas. Je ne payais pas de réseau dans l'ascenseur, ça ne me paraît normal. Et donc voilà, au bout d'un moment, il est revenu, il a dit, oui, j'ai appelé les pompiers. Bah, merci. Ils arriveront dans 20 minutes. Donc, c'était 20 minutes très, 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 très longues. On essayait de respirer, de se calmer. On n'était que tous les deux, quoi, en fait. Il n'y avait personne d'autre. Pourtant, on se connaît bien, mais... Et en fait, c'était terrible parce qu'on sentait la pression, la tension qui montait quand même. Même si on savait que les pompiers allaient arriver, que voilà. Mais c'était... ouais, c'était assez paniquant quand même. Et donc, les pompiers ont fini par arriver. Ils ont ouvert les portes. Et en fait, on était presque arrivés à un étage... Donc on a escaladé un petit peu et puis on est sorti, on est rentré à la maison, on a posé les sacs et puis on s'est regardé, on a fait non, on sort plus. Et en fait, on a annulé le dîner, on est resté à la maison, on a commandé des pizzas et on a regardé un film et on n'est plus sorti. Et après, pendant au moins 2 semaines, j'ai monté les 11 étages à pied, quand même, tellement j'avais été traumatisée par cette aventure. Donc voilà. Alors, un jour, ou plutôt fin d'après-midi, Je rentrais chez moi avec mon compagnon, et parce qu'on avait fait des courses en fait en ville. Oui, je crois qu'on avait acheté des vêtements, enfin c'était, on avait fait du shopping. Et le soir, on était invités à dîner chez des amis. Donc, on rentre à la maison avant pour poser les affaires, pour se changer et puis pour repartir. Et à l'époque, on habitait au 11e étage dans un immeuble. Donc, bien sûr, on a pris l'ascenseur. On prenait jamais les escaliers. Et donc, bon, dans l'ascenseur, on appuie sur le 11e étage. Et puis voilà, on attend que ça se passe. Ça monte, ça marche. Et à un moment, en fait, l'ascenseur s'est arrêté. Donc, on se dit, bon, c'est pas grave, ça va repartir, voilà. On essaye de ne pas paniquer et en fait, l'ascenseur, non, on ne repartait pas. Mais chose étrange, la lumière fonctionnait encore. Enfin, il y avait une lumière de sécurité, je pense, parce que... ouais, enfin, il ne faisait pas nuit, c'était déjà ça. Donc, on avait vu qu'il y avait un bouton, alarme, sonnerie, donc on appuie dessus. Bien sûr, il ne se passe rien, donc on insiste un petit peu. Et puis, en fait, mon ami, il est claustrophobe, quoi. Donc, moi, j'essayais de rester super calme, de faire « Non, non, mais tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème », de dédramatiser au possible. Et bon, on insiste quand même sur le bouton sonnerie, il ne se passe toujours rien. Donc, bon, mon copain commence à taper contre les portes pour avertir les voisins. Et puis, bon, évidemment, il a fait tellement de bruit que des gens qui habitaient au-dessus ou en dessous, je ne sais pas, sont arrivés. Et on dit « Bah, qu'est-ce qui se passe ?» On dit « Bah, on est coincé dans l'ascenseur, prévenez le gardien. » Et là, la réponse du voisin a été géniale. Il nous a dit « Bah, on est samedi soir, il travaille pas. » On a fait « Mais attendez, on va pas rester dans l'ascenseur jusqu'à lundi. » « Ah bah, bah, y a pas de solution. » Et il dit « Mais si, on va pas rester dans l'ascenseur. » Il dit « Mais le gardien est pas là. » Et on est, c'est un dialogue de sourds, quoi. Et donc, j'ai fini par avoir besoin de dire à ce monsieur-là, il dit « Mais écoutez, appelez les pompiers. » Tout simplement, quoi, faites quelque chose, parce que nous, je sais pas, nos portables, ça marchait pas, je sais pas, il y avait pas de réseau dans l'ascenseur, ça me paraît normal. Et donc voilà, au bout d'un moment, il est revenu, il a dit « Oui, j'ai appelé les pompiers. » Bah merci, ils arriveront dans 20 minutes. Donc on a, là, c'était 20 minutes très 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 longues, on essayait de respirer, de se calmer, on était que tous les deux, quoi, en fait, il y avait personne d'autre. Pourtant, on se connaît bien, mais... Et en fait, c'était terrible parce qu'on sentait la pression, la tension qui montait quand même. Même si on savait que les pompiers allaient arriver, que voilà, mais c'était, ouais, c'était assez paniquant quand même. Et donc les pompiers ont fini par arriver. Ils ont ouvert les portes. Et en fait, on était presque arrivés à un étage. Donc on a escaladé un petit peu et puis on est sortis, on est rentrés à la maison. On a posé les sacs. Et puis on s'est regardé, on a fait « Non, on sort plus ». En fait, on a annulé le dîner, on est resté à la maison, on a commandé des pizzas et on a regardé un film. Et on n'est plus sortis. Et après, pendant au moins 2 semaines, j'ai monté les 11 étages à pied, quand même. Tellement j'avais été traumatisée par cette aventure. Donc voilà.
Exercice 2. Vous allez entendre une personne présenter le début de la carrière de Michel Tournier, un auteur français. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 7. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Mais sa vie littéraire, elle a commencé assez tard, en fait. Ce premier roman, Vendredi ou les lames du Pacifique, il l'a publié, il avait déjà 42 ans. Il avait eu une première, un premier itinéraire, pas très loin de la littérature, mais qui était plutôt consacré à la philosophie. En fait, Michel Tournier, il a préparé une agrégation de philosophie qu'il n'a pas réussi. Et il raconte dans ses différents entretiens avec les journalistes, il dit que ça a été un drame pour lui d'échouer à cette agrégation de philosophie et de ne pas pouvoir consacrer sa vie, comme il l'avait pensé, à l'étude et à l'enseignement de la philosophie. Mais du coup, il analyse ses œuvres comme des romans de philosophes, des romans de la philosophie mise en roman. Et il tient beaucoup à cette analyse-là. Ces romans, c'est de la philosophie mise en récit, mise en histoire, mise en conte ou en légende, ou en gros romans, comme les quelques gros romans qu'il a écrits. Donc, je disais, son premier roman, c'est réellement, il dit que c'est réellement son premier roman. Il n'a pas essayé de se faire publier plus tôt. Après avoir abandonné la philosophie, il s'est tourné vers le journalisme. Il a travaillé dans différents médias. Il a travaillé pour la radio. Il a fait beaucoup de radio. Il a fait une émission de télévision pendant longtemps consacrée à la photographie. Ça, c'était un autre de ses pôles d'intérêt. Il s'est beaucoup intéressé à la photographie, outre la philosophie. Et il est à l'initiative, par exemple, d'une manifestation autour de la photographie qui perdure encore maintenant et qui est les rencontres d'Arles. Il a constaté que lui-même n'était pas un très bon photographe, mais que la photographie était vraiment une passion pour lui, alors une passion de regardeur après tout, parce qu'il en faut aussi, et peut-être de propagateur de la photographie et d'analyse de la photographie. Il était très ami avec le photographe Édouard Bouba, qui fait partie de ses grandes amitiés. Il y en a un certain nombre. Il a été aussi l'ami de philosophes, par exemple Gilles Deleuze, qui a beaucoup compté dans sa vie. Je crois qu'ils ont été camarades de Cagnes ou d'université, et il est resté très lié à Gilles Deleuze. Voilà, c'est un homme d'amitié, un homme avec un regard sur le monde qui a été toujours très orienté, alors beaucoup tourné vers l'enfant. Mais sa vie littéraire, elle a commencé assez tard, en fait. Ce premier roman, Vendredi ou les lames du Pacifique, il l'a publié, il avait déjà 42 ans. Il avait eu une première, un premier itinéraire, pas très loin de la littérature, mais qui était plutôt consacré à la philosophie. En fait, Michel Tournier, il a préparé une agrégation de philosophie qu'il n'a pas réussi. Et il raconte dans ses différents entretiens avec les journalistes, il dit que ça a été un drame pour lui d'échouer à cette agrégation de philosophie et de ne pas pouvoir consacrer sa vie, comme il l'avait pensé, à l'étude et à l'enseignement de la philosophie. Mais du coup, il analyse ses œuvres comme des romans de philosophes, des romans de la philosophie mise en roman. Et il tient beaucoup à cette analyse-là. Ces romans, c'est de la philosophie mise en récit, mise en histoire, mise en conte ou en légende. et ou en gros romans, comme les quelques gros romans qu'il a écrits. Donc, je disais son premier roman, c'est réellement, il dit que c'est réellement son premier roman. Il n'a pas essayé de se faire publier plus tôt. Après avoir abandonné la philosophie, il s'est tourné vers le journalisme. Il a travaillé dans différents médias. Il a travaillé pour la radio. Il a fait beaucoup de radio. Il a fait une émission de télévision pendant longtemps consacrée à la photographie. Ça, c'était un autre de ses pôles d'intérêt. Il s'est beaucoup intéressé à la photographie, outre la philosophie. Et il est à l'initiative, par exemple, d'une manifestation autour de la photographie qui perdure encore maintenant et qui est les rencontres d'Arles. Il a constaté que lui-même n'était pas un très bon photographe, mais que la photographie était vraiment une passion pour lui, alors une passion de regardeur après tout, parce qu'il en faut aussi, et peut-être de propagateur de la photographie et d'analyse de la photographie. Il était très ami avec le photographe Édouard Bouba, qui fait partie de ses grandes amitiés. Il y en a un certain nombre. Il a été aussi l'ami de philosophes, par exemple Gilles Deleuze, qui a beaucoup compté dans sa vie. Je crois qu'ils ont été camarades de Cagnes ou d'université, et il est resté très lié à Gilles Deleuze. Voilà, c'est un homme d'amitié, un homme avec un regard sur le monde qui a été toujours très orienté, alors beaucoup tourné vers l'enfant.
Exercice 3. Vous allez entendre un reportage sur un hôtel pour chats. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions 1 à 8 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Franceinter.fr.
Avec Emmanuel Moreau, l'esprit d'initiative, sachant que près d'un Français sur trois possède un chat et que c'est en ville qu'ils sont les plus nombreux, leur trouver un hébergement pendant les vacances relève du casse-tête. Emmanuel, vous avez repéré à Paris un hôtel huppé pour chats.
Gauthier Berdeau, un cat lover, a créé avec un financement participatif il y a un an et demi l'hôtel Aristide, un hôtel particulier qui leur est totalement dédié. Installé dans une impasse du 9e arrondissement, l'établissement compte une salle de jeu et 25 chambres au design inspiré des boutiques hôtels. Ici, pas de cage, pas de box, pas de grillage, mais des caresses et des jeux garantis. L'hôtel fonctionne toute l'année. Les périodes de vacances sont toujours pleines. Visite guidée avec Gauthier sous le regard des félins urbains.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai réservé une chambre.
Oui, bien sûr. C'est la chambre 5 qu'on a prévue, donc on va vous la montrer.
Je vous suis.
Alors, c'est la chambre, là.
Donc on a tout un jeu de plateformes, d'arbres sur lesquels le chat peut grimper, sauter, se poster pour observer l'extérieur, les autres chats aussi, les autres chambres. Tout un jeu de transparence avec des vitrages qui sont aussi importants. L'idée, c'est de concevoir cette pièce en trois dimensions, donc tout en hauteur. Un chat, ce qui est important pour lui, c'est pas la surface au sol, c'est le volume d'une pièce, donc il faut qu'il puisse l'exploiter.
Cette chambre, elle fait combien de mètres carrés ?
Alors les chambres, elles font entre 4 mètres carrés à peu près et surtout sur 2,50 mètres de hauteur.
2,50 mètres de hauteur et des étagères partout. Combien de chats peuvent habiter cette chambre ?
Alors là, il peut y avoir 3 chats de la même famille.
Alors non seulement il y a ces étagères, mais elles sont aussi décorées. Il y a une valise avec un coussin à l'intérieur.
C'est beaucoup inspiré d'une tendance qui s'appelle la catification, qui vient des pays anglo-saxons où des architectes, en fait, aménagent leur intérieur pour leurs chats, tout en ayant une exigence de décoration. Et en fait, les valises, on a été chez Emmaüs, on a recyclé des vieilles valises Samsonite. Et on a mis des coussins assez confortables dessus, et donc nos chats dorment en fait ici sur des vieilles valises.
Les chats ont toujours un côté un peu concierge.
Alors c'est vrai que les chats aiment bien pouvoir observer sans être vus. Donc en fait, on a prévu pas mal d'endroits dans les chambres, mais aussi dans la salle de jeu, où le chat peut nous regarder, peut observer le couloir, ce qui se passe dans tout l'hôtel, tout en étant très en hauteur et en retrait. Et donc, c'est plein d'endroits dans l'hôtel où il peut se sentir en sécurité, tout en satisfaisant sa curiosité.
Là, on est devant la chambre de Fish. Les propriétaires qui vous laissent les chats, qui sont-ils ?
Alors, les propriétaires, ça va du couple de 25 ans jusqu'à 40 ans, avec ou sans enfant, pour qui le chat fait partie de la famille. C'est pas non plus leur enfant, mais c'est un individu qui a des sentiments, qui a une conscience, et pour lequel ils veulent le meilleur.
À quelle occasion on vous laisse les animaux ?
Ça va du long week-end, les vacances scolaires bien sûr, mais également de plus en plus pour des déménagements, des travaux dans les appartements, mais également des hospitalisations, où là il y a une partie du séjour qui est remboursée généralement par les mutuelles, où donc on est vraiment habilité à garder des chats pour des très longs séjours, où le chat va avoir besoin de retrouver une deuxième maison.
Alors on revient à la réception. Gauthier, votre lieu est quand même assez exceptionnel. Est-ce que des vétérinaires viennent voir comment l'architecture influe sur le comportement du chat ?
C'est vrai que c'était une conviction vraiment de départ. Certains vétérinaires comportementalistes qui m'avaient aidé et conseillé sur les plans sont revenus après l'ouverture vraiment voir dans la réalité comment un chat, entre le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, se sentait de mieux en mieux. D'abord se cachait, nous observait et puis finalement finissait à jouer avec les autres dans la playroom. On a quelques éthologues qui sont venus aussi.
En fait, vous avez trouvé une niche.
J'ai trouvé une niche, effectivement. On a un an et demi, on a accueilli notre 1500e félin et on a en gros un taux d'occupation de 55% pour la première année, qui croît de 25% sur l'année 2015. Donc c'est des bons résultats. On va continuer à réfléchir comment déployer ce concept.
Et voilà, une niche pour chat, ça existe. Une chambre que vous pouvez réserver d'un clic de souris, bien sûr, sur aristidehotel.com. C'était l'esprit d'initiative. Merci Emmanuel Moreau et à la semaine prochaine.
Il est encore là, le chat ? Ah ben voilà.
Synthèse.fr.
Avec Emmanuel Moreau, l'esprit d'initiative, sachant que près d'un Français sur trois possède un chat et que c'est en ville qu'ils sont les plus nombreux. Leur trouver un hébergement pendant les vacances relève du casse-tête. Emmanuel, vous avez repéré à Paris un hôtel huppé pour chats.
Gauthier Berdot, un cat lover, a créé avec un financement participatif il y a un an et demi l'hôtel Aristide, un hôtel particulier qui leur est totalement dédié. Installé dans une impasse du 9e arrondissement, l'établissement compte une salle de jeu et 25 chambres au design inspiré des boutiques hôtels. Ici, pas de cage, pas de box, pas de grillage, mais des caresses et des jeux garantis. L'hôtel fonctionne toute l'année, les périodes de vacances sont toujours pleines. Visite guidée avec Gauthier sous le regard des félins urbains.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai réservé une chambre.
Oui, bien sûr. C'est la chambre 5 qu'on a prévue, donc on va vous la montrer.
Je vous suis.
Alors, c'est la chambre, là.
Donc on a tout un jeu de plateformes, d'arbres sur lequel le chat peut grimper, sauter, se poster pour observer l'extérieur, les autres chats aussi, les autres chambres. Tout un jeu de transparence avec des vitrages qui sont aussi importants. L'idée, c'est de concevoir cette pièce en trois dimensions, donc tout en hauteur. Un chat, ce qui est important pour lui, c'est pas la surface au sol, c'est le volume d'une pièce, donc il faut qu'il puisse l'exploiter.
Cette chambre, elle fait combien de mètres carrés ?
Alors les chambres, elles font entre 4 mètres carrés à peu près, et surtout sur 2,50 mètres de hauteur.
2,50 mètres de hauteur et des étagères partout. Combien de chats peuvent habiter cette chambre ?
Alors là, il peut y avoir 3 chats de la même famille.
Alors non seulement il y a ces étagères, mais elles sont aussi décorées. Il y a une valise avec un coussin à l'intérieur.
C'est beaucoup inspiré d'une tendance qui s'appelle la catification, qui vient des pays anglo-saxons où des architectes, en fait, aménagent leur intérieur pour leurs chats, tout en ayant une exigence de décoration. Et en fait, les valises, on a été chez Emmaüs, on a recyclé des vieilles valises Samsonite, et on a mis des coussins assez confortables dessus, et donc nos chats dorment en fait ici sur des vieilles valises.
Les chats ont toujours un côté un peu concierge.
Alors c'est vrai que les chats aiment bien pouvoir observer sans être vus. Donc en fait, on a prévu pas mal d'endroits dans les chambres, mais aussi dans la salle de jeu, où le chat peut nous regarder, peut observer le couloir, ce qui se passe dans tout l'hôtel, tout en étant très en hauteur et en retrait. Et donc, c'est plein d'endroits dans l'hôtel où il peut se sentir en sécurité, tout en satisfaisant sa curiosité.
Là, on est devant la chambre de Fiche. Les propriétaires qui vous laissent les chats, qui sont-ils ?
Alors, les propriétaires, ça va du couple de 25 ans jusqu'à 40 ans, avec ou sans enfant, pour qui le chat fait partie de la famille. C'est pas non plus leur enfant, mais c'est un individu qui a des sentiments, qui a une conscience, et pour lequel ils veulent le meilleur.
À quelle occasion on vous laisse les animaux ?
Ça va du long week-end, les vacances scolaires bien sûr, mais également de plus en plus pour des déménagements, des travaux dans les appartements, mais également des hospitalisations, où là il y a une partie du séjour qui est remboursée généralement par les mutuelles, où donc on est vraiment habilité à garder des chats pour des très longs séjours, où le chat va avoir besoin de retrouver une deuxième maison.
Alors on revient à la réception. Gauthier, votre lieu est quand même assez exceptionnel. Est-ce que des vétérinaires viennent voir comment l'architecture influe sur le comportement du chat ?
C'est vrai que c'était une conviction vraiment de départ. Certains vétérinaires comportementalistes qui m'avaient aidé et conseillé sur les plans sont revenus après l'ouverture vraiment voir dans la réalité comment un chat, entre le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, se sentait de mieux en mieux. D'abord se cachait, nous observait et puis finalement finissait à jouer avec les autres dans la playroom. On a quelques éthologues qui sont venus aussi.
En fait, vous avez trouvé une niche.
J'ai trouvé une niche, effectivement. On a un an et demi, on a accueilli notre 1500e félin et on a en gros un taux d'occupation de 55% pour la première année, qui croît de 25% sur l'année 2015. Donc c'est des bons résultats. On va continuer à réfléchir comment déployer ce concept.
Et voilà, une niche pour chat, ça existe. Une chambre que vous pouvez réserver d'un clic de souris, bien sûr, sur aristidehotel.com. C'était l'esprit d'initiative. Merci Emmanuel Moreau et à la semaine prochaine.
Il est encore là, le chat ? Ah ben voilà.
Exercice 4. Vous allez entendre une personne parler de ce qu'elle a vu pendant son voyage en Islande. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à K pour compléter les phrases 1 à 8. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, et donnez un exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour. En novembre dernier, je suis partie en Islande. Je n'y étais jamais allée et j'avais un peu d'appréhension parce que novembre, c'est déjà l'hiver. J'imaginais qu'il allait toujours faire nuit, qu'il allait faire froid, la neige, la glace. Alors j'ai fait des recherches sur Internet avant de partir et effectivement, on disait par exemple qu'il fallait toujours bien vérifier les prévisions météorologiques avant de partir en excursion, qu'on pouvait partir le matin sous un très beau soleil se retrouver plus tard dans l'après-midi sous une tempête de neige, qu'il fallait aussi toujours laisser son plan de route à l'hôtel, c'est-à-dire dire exactement où on avait l'intention d'aller. J'avais aussi lu beaucoup de polars, de romans policiers islandais, où il était toujours question de personnes qui disparaissaient dans des tempêtes de neige, dans le brouillard, dans des crevasses, dans des trous, dans le sol. Mais bien sûr, le voyage s'est très bien passé, personne n'a disparu et tout le monde est bien revenu. Et le pays est vraiment très très beau, il y a des paysages assez extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de lieux où nous sommes allés, les paysages, le paysage lui-même est associé à une histoire, à une légende. Et ainsi, par exemple, on est allé dans un lieu qui s'appelle la forêt de lave. Donc la lave, c'est ce qui sort des volcans et qui après se refroidit. Et dans ce lieu, c'est un immense champ de pierres avec des pierres de forme très bizarre. Et la personne qui nous accompagnait nous a raconté l'histoire associée à ce lieu, la légende. Et cette histoire, c'est l'histoire des trolls, du chef des trolls. Alors les trolls, c'est un des peuples cachés qui vit en Islande, parallèlement aux Islandais. Ce sont des petits hommes ou des petites femmes qui sont plutôt petits, plutôt laids, pas très beaux, et qui sont assez méchants, qui aiment bien faire des blagues. Par exemple, on raconte que si vous ne trouvez pas un objet, c'est sûrement un troll qui l'a pris et qui l'a caché. Et une autre caractéristique de ce peuple de trolls, c'est qu'ils vivent dans des grottes, ils vivent cachés, ils n'aiment pas du tout la lumière du soleil parce que le soleil les transforme en pierre. Donc le chef des trolls voulait faire une grande fête et il a invité tous les trolls et c'était une très belle fête. Tous les trolls ont mangé, ont bu, ont dansé, ont fait des blagues et ils se sont tellement bien amusés qu'ils ont oublié l'heure. Et bien sûr, le soleil s'est levé et il a touché les trolls et les a transformés en pierre. Et voilà donc l'origine de cette forêt de lave. Et effectivement, si on a de l'imagination, on peut voir des pierres qui ressemblent à des hommes qui parlent, qui mangent, qui boivent. Et voilà, donc c'est une des histoires associées à un des paysages qu'on peut voir en Islande. Bonjour. En novembre dernier, je suis partie en Islande. Je n'y étais jamais allée et j'avais un peu d'appréhension parce que novembre, c'est déjà l'hiver. J'imaginais qu'il allait toujours faire nuit, qu'il allait faire froid, la neige, la glace. Alors j'ai fait des recherches sur Internet avant de partir et effectivement, on disait par exemple qu'il fallait toujours bien vérifier les prévisions météorologiques avant de partir en excursion, qu'on pouvait partir le matin sous un très beau soleil se retrouver plus tard dans l'après-midi sous une tempête de neige, qu'il fallait aussi toujours laisser son plan de route à l'hôtel, c'est-à-dire dire exactement où on avait l'intention d'aller. J'avais aussi lu beaucoup de polars, de romans policiers islandais, où il était toujours question de personnes qui disparaissaient dans des tempêtes de neige, dans le brouillard, dans des crevasses, dans des trous, dans le sol. Mais bien sûr, le voyage s'est très bien passé, personne n'a disparu et tout le monde est bien revenu. Et le pays est vraiment très très beau, il y a des paysages assez extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de lieux où nous sommes allés, les paysages, le, le, le paysage lui-même est associé à une histoire, à une légende. Et ainsi, par exemple, on est allé dans un lieu qui s'appelle la forêt de lave. Donc la lave, c'est ce qui sort des volcans et qui après se refroidit. Et dans ce lieu, c'est un immense champ de pierres avec des pierres de forme très bizarre. Et la personne qui nous accompagnait nous a raconté l'histoire associée à ce lieu, la légende. Et cette histoire, c'est l'histoire des trolls, du chef des trolls. Alors les trolls, c'est un des peuples cachés qui vit en Islande, parallèlement aux Islandais. Ce sont des petits hommes ou des petites femmes qui sont plutôt petits, plutôt laids, pas très beaux, et qui sont assez méchants, qui aiment bien faire des blagues. Par exemple, on raconte que si vous ne trouvez pas un objet, c'est sûrement un troll qui l'a pris et qui l'a caché. Et une autre caractéristique de ce peuple de trolls, c'est qu'ils vivent dans des grottes, ils vivent cachés, ils n'aiment pas du tout la lumière du soleil parce que le soleil les transforme en pierre. Donc, le chef des trolls voulait faire une grande fête et il a invité tous les trolls et c'était une très belle fête. Tous les trolls ont mangé, ont bu, ont dansé, ont fait des blagues et ils se sont tellement bien amusés qu'ils ont oublié l'heure. Et bien sûr, le soleil s'est levé et il a touché les trolls et les a transformés en pierre. Et voilà donc l'origine de cette forêt de lave. Et effectivement, si on a de l'imagination, on peut voir des pierres qui ressemblent à des hommes qui parlent, qui mangent, qui boivent. Et voilà, donc c'est une des histoires associées à un des paysages qu'on peut voir en Islande.
C'est la fin du test de compréhension orale.